franceinter.fr 3D. Le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Le mélanome, c'est le cancer de la peau. Et nous allons en parler, et de façon, comment dire, dynamique et positive, parce que la recherche fait des progrès extraordinaires, et celles et ceux qui sont ici au travail à Gustave Roussy, jour après jour, minute après minute, méritent qu'on parle d'eux un peu différemment et pas dans, comment vous dire, dans l'angoisse ou l'inquiétude, mais au contraire pour mesurer à quel point ce travail est important et passionnant. Nous allons en parler avec vous, docteur Christine Mathéus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur, vous êtes onco-dermatologue ici à l'Institut Gustave Roussy. À vos côtés se trouve le professeur Éric Solari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'hématologie à l'Université Paris Sud, directeur de recherche à Gustave Roussy, et vous présidez le conseil scientifique de la Fondation ARC, c'est-à-dire la Fondation pour la recherche sur le cancer. Et puis il viendra nous rejoindre, il est encore dans les transports et il va arriver d'un moment à l'autre, le professeur Alexander Egermont, qui est le directeur général de Gustave Roussy, qui est donc le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Et Aurore Vincenti, bonjour Aurore.
Bonjour Stéphane.
Quel est le mot, Aurore, que vous choisissez pour ouvrir ce 3D?
J'ai choisi le mot immunité, mais d'abord j'aimerais faire quelque chose que je ne fais pas, et pourtant je le pense depuis le début de l'année. J'aimerais remercier Agathe Mère, qui est là avec nous et qui prépare l'émission, et puis Camille Blanès, qui l'a aussi préparé toute l'année, parce qu'elle m'aide à réfléchir, elle me donne des idées, elle m'apporte des mots. Voilà, on pense ensemble, donc j'aimerais les remercier toutes les deux, et puis vous remercier, vous, bien sûr, Stéphane. Alors, l'immunité. C'est une jouissance, l'immunité. Un privilège. Tout le monde n'y a pas accès. Historiquement, elle est accordée à une catégorie de personnes, des « happy few », comme on dit. Et elle dispense de l'impôt, des corvées, des charges que l'on doit au roi. C'est du moins ce que le terme recouvre au XIVe siècle, quand il est employé pour la première fois dans la langue française. Le Robert historique de la langue française, que j'ai sous la main toutes les semaines, nous dit qu'il s'agit d'un des principes qui annonce la féodalité. En somme, les privilégiés qui en jouissent deviennent alors intouchables, préservés dans un espace hors des lois, des obligations et des charges. Ces charges, on les trouve dans le munus latin, qu'on entend dans immunité. Ce sont des services rendus pour la collectivité, des travaux dont la fiscalité fait partie, par exemple. Le fait que l'on soit exempté de cette charge se lit dans l'attaque du mot « immunité ». Le préfixe « im » est privatif. Ça veut dire « sans », sans charge, sans impôt, sans obligation. Ce préfixe est important parce que, songez un peu, si on le remplaçait par le préfixe latin « cum », avec, ça donnerait « communauté », »,« communauté ». En effet, l'immunité s'oppose à la communauté, puisque l'immunisé n'est pas soumis aux mêmes lois que la communauté. Pensez à l'immunité présidentielle, par exemple, souvent controversée. Mais c'est bien joli de parler de politique, l'immunité a aussi des droits dans le champ musical, c'est joli ça, dans le champ médical. C'est un lapsus, c'est heureux plutôt.
Ah, mais c'est un beau lapsus.
On peut en effet s'interroger sur le lien entre cette première définition juridique et celle que l'on reconnaît lorsque l'organisme se montre réfractaire à un poison ou à un agent pathogène. Alors pourquoi ce mot-là? Le corps humain, lorsqu'il est immunisé, s'exempte de lui-même, ou alors on l'aide un peu, mais il s'exempte de la lourde charge de la maladie. Il s'agit donc de mettre la loi, par exemple, ou les impôts, en parallèle de la maladie. C'est facile de recourir à cette métaphore lorsqu'on parle des impôts, par exemple, alors, qu'elle plaît, hein, n'est-ce pas? Autre chose qui apparaît au détour d'une définition, la fameuse charge munus a elle-même une racine indo-européenne qui dit le changement, et qu'on le retrouve dans le mot « mutation », par exemple. On en fait peu de cas, mais si on y pense, le corps humain, parcouru de changements internes, traversé par d'autres changements externes, doit faire face en luttant. On le retrouve ici, le préfixe « im » dans la lutte. Mais de façon plus poétique et peut-être moins rigoureusement étymologique, l'immunité, c'est également cette capacité qu'a l'être humain, dans son corps, mais aussi dans cette totalité complexe, à se transformer, à s'adapter, à changer, et même à se transcender.
C'est intéressant ce que vous avez fait parce que immunité, communauté, restons un instant là-dessus, d'autant que Caroline Cartier ne s'est pas tellement éloignée de votre raisonnement et de votre réflexion. Nous sommes ici pour parler du cancer et de la lutte contre le cancer. La société, elle aussi, peut connaître des formes de cancer, à commencer par la haine et le racisme, n'est-ce pas, Caroline Cartier ?
Lorsqu'un cancer se développe, le corps humain est constitué de millions de cellules dont les formes, les tailles et les fonctions sont très diverses. Les cellules sont les structures de base de tous les tissus présents dans l'organisme.
Les fidèles ont été tués en pleine lecture de la Bible. Le tireur a ouvert le feu vers 21h à Charleston, en l'église méthodiste de Saint-Emmanuel, l'une des plus anciennes paroisses noires de la ville. À l'intérieur, plusieurs morts, une tragédie pour la communauté noire. Un crime raciste.
Tumeur. Un équilibre fragile existe donc. Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu et les cellules commencent à se développer de manière anarchique.
Ces gens étaient à l'église. Ils étaient à l'église. Et c'est aussi un lieu saint qui a été violé. Ce drame va bien au-delà de ce qui est arrivé cette nuit. C'est juste inacceptable.
Les gens ont peur de parler des vrais problèmes, du racisme. Il y a des gens qui n'aiment pas d'autres gens juste à cause de la couleur de leur peau.
Un crime raciste.
Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu.
Thank you very much. Please be seated.
C'est dans une atmosphère dramatique qu'a eu lieu la comparution de Dylan Roof à Charleston, en Caroline du Sud. Il est apparu au tribunal par vidéo d'une salle de prison flanquée de deux gardiens. Il a répondu rapidement aux questions du juge.
What is your age?
21.
You're 21 years old.
Ensuite, cinq proches des victimes se sont directement adressés au présumé tueur.
Every fiber in my body hurts.
Chaque fibre de mon corps me fait mal, a dit celle-ci.
I am very angry. We have no room for hate.
Je suis très en colère, mais je n'ai pas de place pour la haine. La haine.
Ce déséquilibre peut être dû soit à une croissance cellulaire anarchique, soit à la perte de la capacité de la cellule à s'autodétruire, ce qui entraîne la formation d'une masse de cellules appelée tumeur.
Every fiber in my body hurts.
Chaque fibre de mon corps me fait mal.
Yeah, oh yeah. It's very much a lie.
Le mot racisme est sur toutes les lèvres ici.
It's a lie. You see it every day.
Oui, le racisme, croit cette dame, est toujours là. On le voit tous les jours.
Lorsqu'un cancer se développe.
Voilà, toutes les formes de cancer possibles, et celui-là concerne la communauté, celui dont on vient de parler avec Caroline. Avec vous, docteur Christine Mathéus, parlons du cancer, du mélanome, et reprenons d'ailleurs ce slogan « Ensemble contre le mélanome ». Et dès qu'on arrive ici à Gustave Roussy, dans l'entrée de l'hôpital, il y a toute une installation que je trouve très pédagogique et très intelligente, qui est une sorte, au fond, de quoi ? De checklist, ce qu'il faut savoir de sa peau, n'est-ce pas ?
Exactement, c'est une campagne qui a démarré avec le collectif Ensemble contre les mélanomes. Le but est d'essayer de prévenir les patients, leurs familles, tout le monde en général, nous-mêmes aussi, contre les méfaits possibles du soleil. Alors pas pour faire peur, hein, d'effrayer les gens. Le but n'est absolument pas de... Le soleil est bon, il donne le moral, voilà. Mais il faut savoir le gérer.
Il y a des règles précises.
Voilà, ouais, exactement.
Il y a des règles précises.
Comme le bon vin, ça se boit avec modération. Le soleil, c'est pareil, ça se prend avec modération. Donc, effectivement, il y a des placards un peu partout dans l'entrée où on explique ce que c'est qu'un grain de beauté, ce que c'est qu'un mélanome.
Avec même une question, pardonnez-moi de vous couper, oui. Mais la question est très pertinente. Combien avez-vous de grains de beauté ? Mais on ne se pose peut-être pas suffisamment la question, hein.
La plupart des gens ne le savent pas quand on interroge les patients en consultation. D'après vous, depuis quand s'est-il modifié ? Les gens nous regardent souvent avec des grands yeux, mais je n'en sais rien, je ne sais pas. Depuis quand l'avez-vous ? Mais je ne sais pas non plus. Donc voilà, c'est un peu attirer l'attention des patients. Souvent, on fait attention à son cholestérol, sa tension. C'est le genre de choses auxquelles les patients maintenant font très attention. Et la peau, elle est un peu... laissé pour compte, on ne sait pas trop.
Sauf que la peau, c'est quand même c'est le plus gros organe. Est-ce que le mot organe convient ? Est-ce que la peau est un organe ?
Tout à fait, c'est l'organe qui est entre l'externe et l'interne. C'est l'interface entre l'extérieur et notre organisme. Et d'ailleurs, s'y reflètent les choses externes et internes. On y retrouve beaucoup, beaucoup de pathologies internes qui sont reflétées par la peau, et à la fois aussi des pathologies externes qui sont, du coup, qui la peau fait barrière, en
quelque
sorte.
Bien sûr. Mais si donc la peau est une messagère, il faut savoir regarder la peau. Or, à l'évidence, on ne la regarde pas suffisamment, puisque vous nous proposez, quand je disais checklist tout à l'heure, pardon pour l'anglicisme, Aurore, mais en effet, il y a tout un protocole très précis avec 7 étapes que vous avez déterminées pour regarder sa peau.
Oui, d'essayer effectivement de bien déterminer déjà son phototype, ce qu'on appelle son phototype, c'est-à-dire à quelle peau on a affaire. Est-ce qu'on est un patient à risque ou pas pour le soleil ?
Plus la peau est claire et plus on risque, c'est ça ?
On compte la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux et sa capacité ou pas à bronzer au soleil. Parce que malgré le fait que, effectivement, par exemple, certains patients sont bruns, les yeux foncés, quand ils vont au soleil, ils ne prennent pas forcément bien le soleil et ils peuvent rougir. Donc ça, c'est important. Et alors, quelqu'un qui est blond aux yeux bleus, par nature, il prendra a priori pas très, très bien le soleil. Il va rougir avant de bronzer. Donc ça, c'est vraiment des données importantes que le patient doit connaître. Et ensuite, c'est regarder effectivement sur sa peau combien de grains de beauté il a. Est-ce qu'il y a des taches de rousseur ou pas ? Les taches de rousseur, c'est les symptômes liés justement déjà à la prise de soleil. On a déjà brûlé. Il y a des petites taches qui sont apparues. Et puis les grains de beauté, effectivement, essayer de voir combien on en a, de quelle forme ils sont, quelle couleur, etc. Bien
les connaître. C'est un examen très méthodique hein, que vous demandez de faire. Par exemple, moi j'aurais jamais pensé à ça, mais il faut regarder dans son dos, il faut regarder ses oreilles, derrière ses oreilles.
Alors ça, c'est le travail plutôt du dermatologue, parce que c'est très compliqué de regarder derrière ses oreilles.
Mais non, c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas un exercice si facile.
Oui, c'est très difficile. Mais effectivement, c'est souvent les patients, quand ils viennent nous consulter, viennent nous montrer une zone précise. Ouais. Et quand on leur dit « déshabillez-vous entièrement », certains sont choqués en disant « mais je ne viens que pour ce problème ». Mmh. Oui, mais nous, on regarde tout un organe. Ça ne viendrait pas à l'idée d'un cardiologue de ne faire que une auscultation et de ne pas prendre le pouls, de prendre la tension. Ben, nous, c'est exactement pareil. Quand on regarde la peau, on regarde toute la peau. Donc ça va du cuir chevelu jusqu'entre les orteils, en passant par les muqueuses de l'œil, de la bouche, vulvaire, génitale. Tout ça, c'est de la peau. Donc, il faut qu'on regarde absolument tout. Les ongles.
Et tout ça vous envoie des messages. À quel moment avez-vous la possibilité de dire « Attention, quelque chose commence à me dire qu'il faut être vigilant ». Comment les choses se dégradent-elles ?
Alors, comment on dépiste, comment on détecte un mélanome ? En fait, c'est une tache le plus souvent pigmentée. Donc couleur marron, noir. Et quand on regarde le patient d'un peu loin, quand il se déshabille, l'examen pour nous commence au moment où il se déshabille. Il y a déjà des petits signes, c'est-à-dire par exemple le vilain petit canard, la tache qui ne ressemble pas à toutes les autres. Alors celle-là, c'est la première que l'on va regarder effectivement. Et il y a des critères, on les appelle dans la faculté, c'est les critères A, B, C, D, E. Le premier critère A, c'est pour l'asymétrie. Est-ce qu'il faut qu'il soit bien rond, bien symétrique. B, c'est les bords, bien réguliers. C, c'est une couleur bien homogène. D n'a peu d'importance, je vous en parlerai pas, c'est la taille. En fait, peu importe, il y a des tout petits mélanomes et des larges grains de beauté bénins, donc ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'importance.
La gravité étant proportionnelle à la taille ou pas forcément ?
Non, en fait, la gravité, elle vient de l'épaisseur dans la peau. Et ça, vous ne pouvez pas le mesurer en regardant le grain de beauté, il faut l'enlever et l'analyser au microscope. La gravité, elle vient vraiment de l'épaisseur et pas de sa taille, en fait. On peut avoir une large tache qui finalement est peu épaisse et qui sera de bien meilleur pronostic qu'une toute petite tache très épaisse, par contre, à l'intérieur de la peau.
Alors comment, après tout, moi je vois beaucoup d'enfants là qui passent, et d'ailleurs il y a des statistiques très très encourageantes, j'ai lu quelque part que désormais 80% des enfants atteints de cancer guérissent, ce qui est extraordinaire, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu de temps. Il faut commencer tout petit à être attentif, et notamment les bébés, alors évidemment jamais mettre un bébé au soleil.
Non. Alors effectivement, heureusement, Il y a peu d'enfants atteints de mélanome. C'est vraiment une. Il faut qu'il y ait des maladies génétiques sous-jacentes, etc. Par contre, c'est là où tout se joue. C'est à l'âge, la petite enfance. En fait, leur peau est immature. Elle n'est pas capable de se défendre contre les UV. Ça, on l'acquiert au fur et à mesure de l'enfance et de l'adolescence. Et d'ailleurs, les premiers grains de beauté apparaissent vers l'âge de 6-7 ans. Vous voyez, c'est vraiment la maturité de la peau. C'est vraiment pas avant 6-7 ans. Donc, s'exposer avant cet âge-là, ils ne pourront pas reconstruire leur peau correctement. Donc, il y aura des dommages. Et ces dommages-là, on les verra effectivement plus tard, un peu plus tard, vers l'âge de 20-30 ans, où les premiers mélanomes, les premiers carcinomes vont apparaître. Donc effectivement, dans toutes nos campagnes de prévention, il y a des enfants sur les affiches, avec des chapeaux, des t-shirts, parce que c'est là où effectivement ça se joue.
Bien sûr. C'est la petite enfance. Alors, il y a deux mots, mais Aurore y reviendra sûrement aussi tout à l'heure, que vous venez de prononcer. Vous dites mélanome et vous dites carcinome. Qu'est-ce que c'est que le carcinome ?
Alors, dans les cancers de la peau, effectivement, le mélanome, finalement, c'est une petite proportion d'entre eux. C'est malheureusement le plus grave, mais c'est une petite proportion. Et les plus fréquents, ce sont les carcinomes. Ils sont extrêmement fréquents, mais de pronostic bien meilleur. Une fois qu'ils sont retirés, la plupart du temps, tout va bien pour nos patients.
Ce sont des petites tumeurs, mais qui sont bénignes, c'est ça, ou c'est déjà...
Elles sont pas bénignes.
Elles sont à prendre au sérieux.
Voilà, elles sont cancéreuses. Il faut les retirer entièrement, mais c'est des cancers qui ont un pouvoir métastatique, une capacité de donner des métastases beaucoup moindres que les mélanomes.
Alors, on va voir comment se protéger dans un instant, mais j'en reste à cette proposition que vous faites d'examiner sa peau. On va pas faire ça tout le temps. Qu'est-ce qui serait intelligent de faire pour être sûr de se mettre à l'abri du risque? C'est de voir un dermatologue régulièrement?
C'est ce qu'on conseille effectivement quand les patients viennent nous voir, c'est de effectivement qu'ils continuent auprès de leur dermatologue en ville au moins une fois par an. Mmh. Et quand il y a un risque, un sur-risque, alors là on leur demande de consulter un peu plus fréquemment, mais ça c'est le dermatologue qui le juge. Une fois par an, pour nous tous, ça semble un délai raisonnable. Tout à fait.
Alors, les protections, nous sommes là au mois de juin, beaucoup de ceux qui nous écoutent auront peut-être la chance de partir en vacances et d'aller au soleil. Les règles vraiment élémentaires de base à suivre, quelles sont-elles?
C'est de ne pas s'exposer pendant les périodes à fort ensoleillement.
Midi, 16h, c'est de la folie.
Voilà,
quoi. Ouais.
C'est exactement. D'abord, il faut faire comme les gens du Sud, manger et faire la sieste à cette heure-là. C'est un conseil judicieux pendant l'été. Ouais. Pendant les autres, le matin et en fin d'après-midi, il faut néanmoins rester très prudent et mettre la meilleure protection, ça reste quand même les vêtements, de porter le maximum de vêtements possible. Alors on a tous envie de porter des petites robes, des petits caleçons, etc. Mais toutes les zones après non protégées par les vêtements, il faut mettre de la crème.
Il y a des zones plus fragiles sur notre corps que...
Alors les zones que les patients oublient systématiquement, ce sont les dos du pied, parce qu'on pense à partout mais pas le dos du pied, alors qu'il n'est pas protégé. Souvent on est en tongs, en sandalettes, et les dos du pied prennent souvent des coups de soleil. Les oreilles pour les messieurs, parce qu'ils mettent des casquettes, mais les oreilles sont sorties des casquettes. Portez bien le chapeau, et surtout pour les messieurs qui se dégarnissent. La peau du cuir chevelu n'est absolument pas faite pour se protéger contre le soleil, parce qu'elle est normalement protégée par des cheveux. Donc, malgré que.
Donc, chapeau ou casquette systématique quand on a perdu ses cheveux. Oui. Quand on commence à les perdre.
Tout à fait. C'est obligatoire. Parce que là, vraiment, on prend des coups de soleil très, très facilement.
Et les crèmes qu'on trouve ici ou là dans les pharmacies, etc., protègent vraiment ou pas?
Il faut prendre des indices 50. Pour que ça protège réellement, c'est les indices 50.
Et ça, c'est efficace. La dermatologue que vous êtes considère que ça
oui,
nous protège
efficace.
Pour de bon.
Alors le problème, c'est que les patients souvent en mettent pas suffisamment et pas assez régulièrement. Il faut la mettre toutes les 2-3 heures et en mettre en quantité suffisamment importante. Il y avait eu une campagne à un moment donné où on montrait aux patients comment ils avaient mis leur crème. Ils mettaient leur crème et puis ensuite il y avait, on leur montrait avec une lampe UV comment ils avaient mis la crème. Et c'était vraiment étonnant. Même les patients étaient eux-mêmes étonnés de ne pas l'avoir mis convenablement. parce qu'ils étaient persuadés, bien eux, sûr, de l'avoir bien fait.
Une chose encore qui est importante, la question de l'âge. On a parlé des enfants, et c'est là en effet qu'on constitue peut-être que la prise de risque est importante. Mais chez les personnes qui ont passé 50 ans, faut-il être plus attentif et vigilant ou pas ?
Alors souvent, c'est à ce moment-là que les patients font attention parce qu'ils voient les premiers dommages apparaître. Les taches brunes, disgracieuses. Donc là, ils commencent effectivement à se protéger. Alors, il faut continuer de se protéger à cet âge-là, mais c'est vrai que finalement les méfaits sont déjà faits. Le capital, les premiers, dès qu'on voit les premières tâches arriver, etc., c'est que le capital a déjà été bien entamé.
Alors on a
pas une raison pour ne continuer de le briser.
Mais ce qu'il faut dire, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une émission anxiogène et de faire peur à ceux qui nous écoutent, mais il faut quand même aussi dire des choses importantes que nous devons connaître. Nous devons tous être très attentifs parce que malheureusement, le mélanome, ça augmente. Enfin, les cancers type mélanome augmentent.
Oui, le mélanome, ce n'est pas le cancer le plus fréquent. Hein. Il y a, en rang mondial, c'est le 11e cancer. Mmh. Mais en revanche, c'est celui qui a la plus forte incidence, donc le plus nombre de nouveaux cas par an. On est à 9000 nouveaux patients par an environ. Donc c'est effectivement, c'est pour ça qu'il y a autant de prévention, parce que c'est par là qu'on va réussir à lutter contre cette incidence.
Il y a une explication à cette augmentation ? C'est notre comportement au fond qui...
Il y a plusieurs explications. On paye probablement les années 70 à l'heure actuelle, où on a eu un changement de comportement, il y a eu beaucoup plus de vacances, les moyens de transport beaucoup plus faciles. On va maintenant aux Antilles en quelques heures, pour quelques jours. On veut s'exposer très brutalement. Donc on est probablement en train de payer effectivement nos changements de comportement d'il y a quelques années. La couche d'ozone aussi peut-être, qui nous protège bien des UV. Oui, beaucoup de facteurs.
Aurore, y a-t-il des mots qui vous ont...
Tout simplement mélanome, qui a une jolie racine en réalité, puisque ça vient d'une couleur. Enfin, est-ce que le noir est une couleur ? Ça, c'est une autre question. Mais mélasse ou mélanos, c'est le noir. Et ça entre dans d'autres composés ou dans d'autres mots communs que vous devez connaître, qui est mélancolie. La mélancolie, c'est la bile noire. Colia, c'est la bile. Et mélasse, donc, c'est le noir. Donc, en effet, ces taches, ces fameuses taches, ces grains de beauté, ces taches noires, portent bien leur nom. Et donc, le nom du cancer vient de là.
Juste encore une question qui va peut-être vous surprendre, mais docteur Mathéus, les personnes qui ont une dépigmentation de la peau, c'est une maladie. Hein. Quelquefois, on a des grandes taches blanches comme ça qui...
Alors, il y a plusieurs maladies qui dépigmentent. Il y a le vitiligo, c'est ce dont vous parlez, je pense.
Oui, bien effectivement, sûr.
Qui apparaît par tache. Alors, c'est effectivement une destruction du mélanocyte. Le mélanocyte, c'est cette cellule qui est responsable de notre carnation, qui nous donne notre couleur de peau et qui nous donne notre capacité à bronzer.
Ce qui fait que même blanc, nous ne sommes jamais vraiment très blancs. Tout à fait. En réalité.
Mais ces personnes-là sont-elles plus fragiles ?
Bah, du coup, elles n'ont aucune protection. Elles se retrouvent totalement démunies face au soleil et ces taches blanches rougissent extrêmement rapidement.
Parce Donc ça, c'est à protéger tout particulièrement.
Tout particulièrement, évidemment. Oui, tout à fait.
Alors voyons maintenant avec vous, professeur Éric Solari, vous êtes professeur d'hématologie à l'Université Paris-Sud, vous dirigez la recherche à Gustave Roussy et vous présidez le conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur le cancer. Il y a une conférence qui se tient chaque année à Chicago, elle s'est tenue là début juin, c'est le plus grand congrès de cancérologie du monde. Et alors tout le monde, paraît-il, cette année, n'avait qu'un mot à la bouche, c'était immunologie. Est-ce que c'est en effet une piste de première importance ?
C'est immunothérapie, c'est-à-dire le traitement de ces mélanomes en particulier, mais de beaucoup d'autres types de tumeurs maintenant, en réveillant les capacités de défense des patients contre leurs cellules tumorales. Donc on évoquait ça tout à l'heure, cet équilibre fragile. Si une tumeur émerge, c'est que cette immunité qui a été évoquée en introduction s'est rompue et cette tumeur a pu se développer. Et l'idée de ces immunothérapies est de rétablir cette immunité.
Mais j'ai lu en préparant l'émission toutes sortes d'articles très intéressants, et notamment un chercheur qui disait « une ère nouvelle commence ». Une ère nouvelle, et il ajoutait « il ne s'agit pas de remplacer la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, mais quelque chose de différent se propose à nous ».
Oui, je pense que dans le domaine de la cancérologie, on a vécu en fait deux révolutions thérapeutiques successives en quelques années. D'abord, au début des années 2000, on a, avec les progrès de la génomique, on a pu commencer à développer des thérapeutiques.
Qu'est-ce que c'est que la génomique?
La génomique, donc l'analyse de l'ADN des cellules tumorales pour identifier les altérations qui génèrent en fait le cancer. Tout ça à la suite d'années de recherches qui ont permis d'identifier ces altérations. Donc on a commencé à développer des médicaments qui ciblaient directement ces altérations. C'est la notion de thérapeutique ciblée, de médecine personnalisée. Et puis, on vit depuis 2-3 ans une nouvelle révolution avec ce réveil de la réponse immunitaire et cette capacité à restaurer les défenses des patients.
Alors, vous dites, les mots sont intéressants, mais je vois que Aurore est attentive aussi. Vous dites réveil de la défense immunitaire. Mais si vous dites réveil, c'est qu'elle est quoi? Elle est endormie?
Absolument, qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Je pense que pour qu'une tumeur puisse émerger, il faut qu'à un moment donné, le système immunitaire ait été neutralisé. Les cellules tumorales ne peuvent s'épanouir que si le système immunitaire laisse faire. Et en fait, il y a longtemps que ce concept existe, mais la difficulté était de restaurer la capacité de l'organisme à se défendre.
Mais pourquoi laisse-t-il faire le système immunitaire? Pourquoi baisse-t-il la garde, au fond?
Parce que les cellules tumorales, en se développant, apprennent aussi à neutraliser le système immunitaire. Elles envoient des leurres, elles interagissent avec les systèmes immunitaires, et elle bloque les lymphocytes, qui sont les principaux systèmes, les cellules de la défense immunitaire. Elle bloque ces lymphocytes et elle l'empêche d'éliminer la cellule tumorale.
Et c'est incroyable. Vous écoutez, on a l'impression qu'on vient de fêter la bataille de Waterloo. Là, tout le monde de la commémorer plus que de la fêter d'ailleurs. Mais c'est véritablement le vocabulaire que vous utilisez. C'est le même qu'on pourrait utiliser sur un champ de bataille, au fond.
Oui, c'est une bataille, d'une certaine manière. C'est-à-dire que des cellules anormales apparaissent, mais l'existence des cellules avec des mutations à l'intérieur ne suffit pas à générer un cancer. Il faut aussi que ces cellules arrivent à neutraliser le système immunitaire pour prendre la place, pour se développer à l'intérieur de l'organisme. Donc c'est-à-dire, c'est d'une certaine manière une évolution des concepts en thérapeutique. Au départ, le cancer, c'était une maladie de la cellule et uniquement de la cellule. Et le traitement, c'était détruire cette cellule devenue malade. Et puis maintenant, donc c'était la vision un peu réductionniste du cancer pour les gens qui font de l'évolution. Et maintenant, on a une théorie plus holistique. En fait, ces cellules ne se développent que si l'organisme l'accepte, d'une certaine manière. Ou en tout cas, s'il est dans l'incapacité de réagir et de l'éliminer. Donc, on utilise cette nouvelle approche en thérapeutique avec l'immunothérapie qui permet maintenant, et c'est la grande nouveauté de ces dernières années, il y a eu des années et des années que les immunologistes cherchent des pistes pour réveiller ce système immunitaire. Et là, maintenant, il y a des traitements qui sont effectivement très efficaces et qui sont capables de permettre aux lymphocytes de se réactiver et d'éliminer la tumeur.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour envoyer le signal du réveil? Ce sont des protocoles médicamenteux? Comment procédez-vous, au fond?
Ce sont des anticorps, en particulier, qui bloquent l'interaction entre la cellule tumorale et le lymphocyte, la cellule de l'immunité qui devrait l'attaquer. En fait, les cellules se neutralisent au contact et les anticorps viennent supprimer ces contacts et permettent aux lymphocytes d'à nouveau attaquer la cellule.
Et ces anticorps...
C'est une des approches, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai lu quelque part anticorps monoclonaux. C'est ça le guerrier qui va réveiller le système.
Oui. L'anticorps monoclonal, en l'occurrence, c'est un outil qui vient pour bloquer l'interaction entre des cellules et qui permet au système immunitaire de fonctionner à nouveau. Il y a d'autres approches qui sont en développement.
Mais l'anticorps est en nous ou il est fabriqué en laboratoire et il nous est injecté? Comment les choses se passent-elles, au fond?
L'anticorps est fabriqué, effectivement, pour vraiment cibler. Donc ça, c'est le fruit d'années de recherche qui ont permis de développer cette technologie de fabrication d'anticorps ciblant des molécules très précises et qui sont capables, introduites dans l'organisme, d'aller bloquer des interactions cellulaires, par exemple.
Et est-ce qu'on peut imaginer un jour que notre système immunitaire apprendra tout seul à fabriquer le bon anticorps, l'équivalent de celui qui est fabriqué en laboratoire, et qu'au fond, nous deviendrions alors, nous-mêmes, les principaux acteurs du combat contre la maladie?
Pourquoi pas? Je pense que, mais bon, on est encore loin de ce type d'application. Non, d'autres approches consistent aussi à récupérer les lymphocytes du malade et à leur apprendre à nouveau à reconnaître les cellules tumorales, à les armer en quelque sorte.
Mais un peu le même protocole que pour un vaccin, par exemple?
Oui, c'est ça. Ils sont modifiés au laboratoire, réinjectés au patient. Donc, on prend les lymphocytes du patient, modifiés au laboratoire, réinjectés au patient, de façon à attaquer les cellules tumorales très spécifiquement. Ça marche dans certaines hémopathies malignes de façon très efficace.
Mais quand vous dites très efficace, en effet, on voit, il ne s'agit pas non plus de donner de faux espoirs, mais des raisons d'espérer, elles sont là pour de bon. Par exemple, sont encore vivants, 3 ans après, des gens qui, malheureusement, auraient pu disparaître autrement.
C'est ça la révolution, en fait. C'est-à-dire que ce que l'on observe avec l'immunothérapie, ce sont des survies prolongées, longues. Peut-être des guérisons, on verra plus tard. Mais on commence déjà à avoir des survies qu'on n'imaginait pas il y a quelques années, dans des situations métastatiques gravissimes. Je précise que ces thérapeutiques ne s'appliquent quand même qu'à des situations métastatiques et très
graves. C'est ça, quand la maladie voilà, vraiment a pris des proportions importantes, bien sûr.
Qui reste la chirurgie. Mais dans ces situations gravissimes, on observe des patients qui survivent avec ce traitement, ce qu'on n'observait pas, même avec des thérapeutiques ciblées, il y a encore 4-5 ans.
Mais ce dont il faut que nous prenions tous conscience, c'est la temporalité de la recherche. Je lis décidément aussi en préparant l'émission qu'il vous faut un minimum de 10 années pour pouvoir considérer véritablement que là, vous avez mis en place quelque chose qui est véritablement efficace.
Oui, il faut peut-être plus encore si on considère les années en amont pour le développement, les années en aval pour effectivement apprendre, parce que en fait, une fois que le traitement, pour l'instant, on est dans l'observation de très beaux résultats. Mais la question maintenant, c'est que tout le monde n'en profite pas. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde ne répond pas à ce traitement? Qui va répondre? Qui va pas répondre? Quels vont être les effets de ce traitement à court terme, à long terme? Donc, ces succès qui viennent d'apparaître sont effectivement très intéressants et posent une multitude de questions pour toutes les équipes de recherche autour.
Alors vous dites les effets, il y a des effets secondaires aussi pour le type de traitement que vous venez d'évoquer ou pas?
Oui, il ne faut pas croire que sous prétexte que ce n'est pas de la chimiothérapie, on n'aura pas d'effets secondaires. Ouais. Ce sont des traitements qui induisent des effets secondaires, qu'on apprend à connaître en même temps que ces traitements se développent. On a parlé tout à l'heure avec l'immunité d'équilibre fragile. On agit sur un système qui est par nature très sensible à des notions d'équilibre. Et donc, si en perturbant cet équilibre, on peut générer une réponse immunitaire contre la tumeur, mais quelquefois aussi contre des organes du patient, des réactions auto-immunes. Et donc, on apprend à connaître ça, on apprend aussi à le gérer pour que ça se passe au mieux. Mais ça fait partie des choses qu'on apprend en même temps que ces traitements se développent actuellement.
Et ce traitement, il est combiné avec la chimiothérapie, avec la radiothérapie, avec tout ce qu'on a jusqu'ici utilisé dans les traitements du cancer?
C'est l'étape suivante, puisque pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est qu'avec l'immunothérapie, une fraction des patients seulement va répondre. 20-30% peut-être de survie à long terme, ça veut dire aussi 70% d'un succès. Chez ceux chez qui ça ne suffit pas, il faudra essayer de combiner avec autre chose. Et donc la combinaison avec les thérapeutiques ciblées qui sont apparues un peu avant ou avec les traitements plus standards de type chimiothérapie qu'on connaît depuis plus longtemps vont faire partie des développements futurs. Oui.
Comment se passe au fond, on est dans le premier centre anticancéreux d'Europe, on en parlera avec le professeur Egermond qui dirige l'Institut Gustave Roussy, mais comment se passe au fond la recherche aujourd'hui et les moyens dont vous disposez qui sont malheureusement peut-être pas à la hauteur de ce que vous espéreriez, mais comment ça se passe? Là par exemple c'est un partenariat, le ensemble contre le mélanome, ça veut dire qu'il a fallu que des groupes bancaires, Crédit Mutuel pour ne pas le citer, que France Inter s'y associe volontiers, que d'autres s'y mettent, ce qui montre que le chemin est peut-être pas si facile que ça pour vous. Hein.
Non, bien sûr. Bon, évidemment, nous sommes soutenus dans notre activité de recherche par nos tutelles, par l'INSERM, par le CNRS, par notre université. Mais au-delà de... Par bien sûr les associations comme la Fondation ARC, la Ligue nationale contre le cancer et d'autres, et beaucoup d'autres, il faut aussi, si on veut se donner une marge de manœuvre supplémentaire et développer une stratégie propre à un institut comme le nôtre, aller chercher des ressources supplémentaires. Et c'est là que la société civile nous aide énormément avec des collectifs comme le collectif contre le mélanome, par exemple.
Et le plan cancer, le plan cancer 3 qui a été mis en place, véritablement est-il porteur d'espérance pour vous et pour la recherche française en général? Il faut répéter, pardon, mais on entend tellement souvent dire que la France est en train de régresser dans tous les domaines, la recherche française est une recherche de pointe. L'Institut Gustave Roussy où nous sommes aujourd'hui, c'est le premier centre anticancéreux d'Europe. Le travail que vous faites, tous les uns et les autres, est absolument extraordinaire. Et on ne parle jamais des infirmières et du personnel hospitalier, mais il y a des saints, moi je l'ai déjà dit à cette antenne plusieurs fois, il y a des saints laïcs à l'hôpital, il y a des gens qui font un travail incroyable. Vous vous sentez porté ou pas?
Par le plan cancer, oui, bien sûr. Je pense que les trois plans cancer successifs qui ont été mis en place en France,
ça a changé les choses.
Une impulsion considérable, oui, à la recherche comme aux soins et à l'organisation des soins, à l'organisation de toutes les plateformes technologiques dont on a besoin pour développer ces nouvelles approches thérapeutiques. Donc oui, ces plans cancer ont été un apport considérable, c'est clair.
Vous le mesurez, Madame Christine Mathéus, qui êtes médecin onco-dermatologue ici à l'Institut Gustave Roussy. Vous mesurez, vous vous sentez portée, aidée, encouragée dans ce que vous faites ici, dans le milieu hospitalier ?
Rien que personnellement. Enfin, la pratique, elle a beaucoup changé depuis mes débuts, on va dire. Il y a eu beaucoup de progrès et ils ont été, parce que souvent il y a parfois des progrès puis en pratique on peut pas parce que on n'a pas les moyens, on ne sait pas, etc. Et là vraiment on voit les progrès de la recherche, ils sont au pied des patients tout de suite, pratiquement tout de suite. Et par exemple les plateformes effectivement pour les recherches des mutations. C'est bien joli de savoir qu'un tel cancer a une mutation et qu'on pourrait peut-être le traiter. Si on n'a pas la capacité, nous, à l'hôpital, de chercher cette mutation, on ne pourra jamais traiter notre patient. Et donc ça, c'est effectivement, ces plateformes ont été développées. Et maintenant, on peut très facilement chercher ce type de mutation à l'hôpital en quelques jours, semaines. Et ensuite... avoir un traitement à proposer à nos patients.
Il y a autre chose qui m'a frappé en arrivant à Gustave Roussy aujourd'hui, c'est le brassage. Et à peine est-on rentré dans l'institut qu'on voit les médecins, les chercheurs, le personnel hospitalier et les patients. Et tout se mélange, se parle, échange. Cet état d'esprit, ce climat participe aussi de...
C'est peut-être parce qu'on traite une maladie particulièrement grave, mais je suis venue à la cancérologie pour ça aussi. Il y a avec les patients quelque chose qui nous lie dès la première consultation. Ils nous confient leur vie.
Oui.
Et nous, on se sent immédiatement liés à eux. Et effectivement, on a tous le même ennemi, qui est cette maladie. On est tous dans le même combat, la même guerre. Et voilà, ensemble. Et ça, à tous les niveaux, parce que nous, médecins, on a effectivement un rôle. Mais pas seulement. L'aide-soignante, quand elle prend la main du patient. Le brancardier, quand il accompagne à ses examens. Tous... on a un devoir, un accompagnement. On doit les porter. Il faut qu'on les porte.
Et vous diriez que c'est spécifique au cancer ?
J'ai l'impression, alors peut-être que tous mes collègues médecins n'auront pas la même approche, mais au cours de mes études, c'est vraiment avec la cancérologie que j'ai trouvé ce lien avec les patients et j'ai voulu m'en défaire.
C'est aussi ce que vous pensez, Monsieur Solari ?
Oui, tout à fait. Je crois que ce qu'on pourrait rajouter, c'est que un institut comme ça permet d'intégrer l'ensemble des personnes, aussi bien médecins que chercheurs ou personnel paramédical, dans une action commune, en quelque sorte. Et l'intégration, c'est un peu le maître mot de notre stratégie d'institution.
Aurore, oui.
Oui, on parle de care, c'est un concept en sciences sociales qui est évoqué peut-être d'autres. Plus en plus ces dernières années, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu dans la mesure où on peut le relier étymologiquement et au niveau des mots à celui de cure, en latin cura et care en anglais, ça donne le soin, le souci, donc est-ce que la cure est liée au care, donc au fait de prendre soin, peut-être d'une autre façon, moins médicale, un petit peu à côté du médical, est-ce que vous pouvez un peu évoquer cette question, peut-être dans le domaine du cancer spécifiquement, puisque je vois que vous l'amenez.
Ici, effectivement, à Gustave aussi, il y a la prise en charge, il y a plusieurs niveaux. Il y a la prise en charge vraiment médicale pure, qui est la chimiothérapie, la perfusion, etc. Il y a la prise en charge recherche. Nos chercheurs connaissent nos patients. Ils savent qui sont derrière ces petits fragments de sang, de tumeurs, de peau, etc. Donc ils ont un lien, ils viennent chercher les fragments au bloc opératoire, ils sont vraiment avec nous. Et puis il y a l'autre versant qui est effectivement le bien-être du patient, parce que souvent on oublie, il y a le traitement, mais il y a son vécu. Comment la famille peut aussi gérer tout ça, parce qu'il n'y a pas que le patient, mais souvent la famille est malade aussi. Et donc là, il y a tout un groupe, c'est l'équipe support qui vient nous aider, effectivement, et à prendre en compte leur bien-être, le bien-être des familles, pour que tout se passe au mieux, avec une vie la plus normale possible.
Mais ce que vous dites qui est très intéressant, et je vais me tourner vers le professeur Alexander Egermont, qui est le directeur général de Gustave Roussy. Ce que vous venez d'évoquer, madame, c'est au fond une forme de personnalisation, vraiment. Et ce qui est intéressant, monsieur Egermont, c'est de voir, on a beaucoup parlé d'immunothérapie, mais que l'immunothérapie, c'est en effet un élément de recherche extrêmement intéressant, mais qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à côté, et notamment par rapport à cet enjeu de la personnalisation, ce que vous appelez, vous, les thérapies ciblées, aller au plus près. Au fond, chaque maladie et chaque cancer, c'est un cas d'espèce qui demande une réponse particulière.
Oui, effectivement, c'est tout à fait le cas. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser au public qui nous écoute et qui ne me connaissent pas que ma langue maternelle, en fait, est hollandais. Ce qui fait que peut-être c'est pour éviter que l'on pense que quand on monte dans l'hiérarchie, c'est l'intellect qui est en baisse. Et en fait, avec l'excellence de nos médecins à Gustave Roussy, je n'exclus même pas cette possibilité. Mais pour éviter que l'on pense que ça soit aussi dramatique que ça, il faut comprendre que je m'exprime maintenant dans un français qui est un peu batavisé, un peu hollandisé.
Vous savez quoi,
on accepte ça.
Non, mais le plus important, c'est c'est la magie de la radio, on vous voit pas. Mais c'est votre sourire qui est en train de faire la différence. Et j'imagine que le sourire du patron, il a une incidence sur tout ce qui se passe autour de lui. Il y a un état d'esprit particulier, non, aussi,
dans ce que vous... Non, absolument. Je crois que Gustave Roussy est une maison avec une ambiance et une cohésion sociale qui est absolument remarquable. Et c'est une des raisons pour lesquelles que je suis venu à Gustave Roussy.
Vous êtes vous-même chercheur, médecin évidemment, spécialiste de toutes les questions que nous avons abordées jusqu'ici. Donc non seulement vous dirigez, mais vous savez exactement ce qui se passe et pourquoi ça se passe et comment ça se passe.
C'est-à-dire, de formation, je suis chirurgien, mais depuis 30 ans, une grande partie de mes activités sont purement dédiées à la recherche. Et puis, tout en faisant et faire l'intégration dans ces deux mondes, j'essaie d'intégrer plusieurs aspects aussi à l'extérieur de ces deux composants principaux, ce qui m'ont fait venir ici. Je crois que quand il y a deux concepts, il y a le concept care, effectivement, qui a tellement d'aspects que l'on doit intégrer parce qu'il faut accompagner aussi le patient d'une façon médicale, mais aussi d'une façon sociale et psychosociale. Et en fait, c'est pas seulement le patient, mais c'est en fait aussi le patient avec ses proches. Et pour ça, c'est très clair que ceux qui savent faire le mieux sont les infirmières. Parce que ce sont eux qui s'occupent des patients la plupart du temps. Mais il faut que les médecins soient totalement intégrés dans ce processus-là. Mais en fait, ici, ça commence déjà à l'accueil.
Oui,
c'est ce qu'on a vu à l'accueil. On voit qu'on essaie de créer une ambiance qui baisse l'anxiété des patients et des proches, parce que les patients ne viennent jamais tout seuls, etc. Ils sont toujours accompagnés, ce qui est une bonne chose pour plusieurs raisons, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive à continuer à écouter dans des discussions qui sont complexes et difficiles et qui ne sont pas toujours faciles à digérer, disons, oui, tous les éléments qui sont dans la discussion. Alors ça aide beaucoup le patient, ça aide aussi beaucoup les médecins, les infirmières et tout le monde. Mais dans ce contexte-là, le mot est l'intégration. Alors pour optimaliser le soin, il faut intégrer toutes les compétences des éléments qui sont là-dedans.
Et ça veut dire quand même, c'est très important, la transdisciplinarité ici, c'est pas un vain mot. On a parlé tout à l'heure d'immunothérapie, mais je lisais là aussi en préparant ma science est très récente, hein, c'est la lecture des articles pour préparer l'émission, qu'au fond, il faut associer plusieurs choses. La génomique dont vous avez parlé, les thérapies ciblées et puis l'immunothérapie. Ça veut dire qu'au fond, il faut avoir une approche un peu systémique de cette forme de maladie.
Bah, ce qui est à la base, c'est qu'il faut d'abord toujours croire à la science et à la recherche. Ouais. Ça, c'est totalement élémentaire. Si on n'a pas cette confiance, on ne serait jamais arrivé à ce point-ci où on est maintenant dans cette révolution en immunothérapie qui, en fait, est beaucoup plus forte que la découverte de cisplatin, de taxotère et de plusieurs chimiothérapies.
Vous avez dit révolution. Hein,
non, mais c'est absolument révolution. Moi, j'ai passé une trentaine d'années en immunologie des tumeurs et immunothérapie. Et pendant 25 ans, c'était la plus grande frustration. Parce que, par exemple, vis-à-vis le mélanome, il faut quand même se rendre compte qu'il y a 5 ans, que la prognostic pour un patient avec un mélanome métastatique était dans l'ordre de 6 à 8 mois. Maintenant, avec les anticorps que l'on a trouvés qui annulent la neutralisation du système immunitaire chez les patients avec un mélanome métastatique, on prévoit que la survie à 5 ans sera supérieure à 50%. Alors de 5% à plus
c'est considérable, que 50%, évidemment. Ouais.
C'est pas seulement considérable, ça veut dire que ça va encore s'améliorer. Ce n'est que le début, parce qu'on arrive à faire ça qu'avec 2 médicaments. Ce qui fait que ça va déclencher une période d'avancement et d'une compréhension beaucoup plus profonde du système immunitaire, parce qu'il faut avoir des pierres qui sont longues dans la composition de ce genre de système. Quand on a identifié les 2 acteurs ou les 3 acteurs principaux, on va comprendre un opéra. Ce qui fait que tout tombe en place. Alors, ce n'est que le début, mais ce qui est encore plus magnifique, c'est que le mélanome, qui était considéré comme une maladie un peu impossible, maintenant est devenu le modèle pour le développement pour plusieurs cancers, et que ce sont ces mêmes molécules, cette même révolution en immunothérapie qui va établir, à mon avis, au moins dans une dizaine de types de cancers, ce thérapie-là avec des avancements très, 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 très importants et très, très considérables. Même, par exemple, dans une maladie où on se croyait déjà vainqueur, la maladie Hodgkin, en fait, ce sont ces molécules-là qui maintenant... Alors, en maladie Hodgkin, par exemple, on a 4-5 lignes de traitement efficaces. Et en fait, ces molécules peuvent être plus efficaces que la première ligne qui existe en maladie Hodgkin. Ce qui fait que ça change et ça va bouleverser complètement la situation en traitement systémique des cancers partout.
Alors maintenant, la recherche et les moyens dont vous avez évidemment besoin. Vous parlez de génomique. L'analyse du génome, ça demande des moyens très importants. Il y a, je crois, 28 plateformes de séquençage en France qui travaillent là-dessus. Mais ça veut dire, 28 plateformes, une quantité de données à traiter absolument inimaginable. C'est le fameux big data, la masse d'informations à traiter. Il faut qu'on vous donne les moyens de pouvoir développer ça et de continuer la recherche, tellement porteuse d'espérance.
Ben, le mot est intégration. En fait, c'était déjà l'intégration de pluridisciplinarité dans le soin, mais le mot intégration s'applique partout. Ça veut dire intégrer la recherche fondamentale, la recherche de transfert translationnel, la recherche clinique, et le modèle pour accélérer l'accès à l'innovation et doit être toujours ciblé vers cette accélération. Et je crois que dans ce modèle-là, nous avons bien avancé et que nous proposons ici à Gustave Roussy une intégration totale dans plusieurs domaines qui effectivement soutient notre programme des essais précoces, par exemple, notre programme de drug development, qui est le premier en Europe, de loin, et qui force cette intégration et la création des infrastructures pour lesquelles, surtout, Éric Solari est responsable. Mais je veux dire, c'est l'idée de créer toutes ces infrastructures-là et de croire et continuer à croire à la recherche. Moi, j'aurais pu abandonner après 25 ans la recherche, parce que quand même, ça fait quand même assez longtemps, 25 ans, sans résultat objectif d'amélioration dans le mélanome. Et puis, tout d'un coup, en 5 ans, tout semble se passer. C'est une fausse observation, parce que ce sont des médicaments, en fait, qui ont été déjà identifiés ou découverts, c'est-à-dire la science fondamentale qui a découvert les ligands, les récepteurs qui sont clés. Ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 5 ans que l'on connaît les ligands, les récepteurs. Mais on ne pouvait même pas s'imaginer que ça allait changer le monde radicalement. Ce qui fait que, et ça c'est le message au grand public, c'est la recherche, la recherche, la recherche. Sans ça, rien n'avancera.
Mais c'est un message magnifique et parce que ce dont vous parlez, c'est la réhabilitation du temps dans une société qui veut que tout se fasse vite. Non, la recherche, c'est du temps.
Mais on arrive à accélérer les choses si on intègre correctement toutes les structures et si on arrive à travailler ensemble. Et ça, c'est autre intégration à un autre niveau. Ça veut dire que, OK, on est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des lacunes et il y aura toujours des lacunes d'infrastructures, etc. On ne peut pas tout faire. Il y a des grandes structures en Europe et il faut travailler avec les meilleurs. Et il faut partager les données. Il faut créer des bases de données qui sont partagées, etc., pour s'attaquer à ce besoin de traiter les big data. Ça veut dire qu'il faut se faire confiance. Et ça veut dire que l'on ne peut pas tout de suite travailler avec tout le monde, etc. C'est dans ce contexte-là que l'on a créé, en fait, un centre de recherche contre le cancer, un hôpital. On est en train de créer ça, un virtuel hôpital de cancer avec Amsterdam, le centre national aux Pays-Bas, avec Cambridge Cancer Center, avec Heidelberg, Deutsche Krebsforschungszentrum, avec Karolinska en Suède et avec Valdebron en Espagne. Avec cette masse critique où on voit 60 000 nouveaux patients par an et où on traite 300 000 nouveaux patients par an, on voit 1,5 million de patients en consultation par an. Si on arrive à se faire confiance et travailler ensemble, c'est le modèle pour avancer.
Mais c'est formidable parce qu'on est en train de découvrir Aurore qui font l'Europe beaucoup plus vite que les politiques
oui,
ici.
Hein. En effet. L'intégration, c'est plein de morceaux, donc plein de pays peut-être aussi, plein de parties qui créent un ensemble. On fait une totalité à partir de plein d'éléments distincts.
Tout à fait, mais on n'a pas fini d'en parler. Et la deuxième partie de 3D entre 13h30 et 14h sera toujours ici avec vous à l'Institut Gustave Roussy.
Direction l'Institut Gustave Roussy où l'on retrouve tout de suite Stéphane Paoli.
On est en effet à l'Institut Gustave Roussy, qui est le premier centre anticancéreux d'Europe, avec un slogan que d'ailleurs partage France Inter, qui est partenaire de ce projet. Le slogan, c'est « Ensemble contre le mélanome ». Et nous en parlons aujourd'hui avec le professeur Alexander Egermont, qui est le directeur général de Gustave Roussy, premier centre, encore une fois, j'insiste là-dessus, de lutte contre le cancer en Europe. Il est néerlandais, monsieur Egermont, il parle le français avec un accent très sympathique et avec un immense sourire qui ouvre tout son visage et qui donne l'ambiance générale de cet institut Gustave Roussy. À ses côtés, il y a le docteur Christine Mathéus, qui est oncodermatologue à Gustave Roussy, et puis le professeur Éric Solari, professeur d'hématologie à l'Université Paris-Sud, directeur de la recherche à Gustave Roussy et président du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur le cancer. Nous poursuivons à Gustave Roussy.
Le journal de Stéphane Paoli.
J'insiste sur le climat qui règne ici parce qu'on en a eu une nouvelle démonstration pendant la pause du journal de 13h. Nous sommes là à l'entrée de l'Institut Gustave Roussy. Il y a les grands patrons qui sont là, il y a les infirmiers, les infirmières et les patients. Et il y en a un qui est venu vers nous et qui m'a dit voilà, écoutez, je vous écoute, je souffre d'un cancer depuis de nombreuses années. Et on me traitait jusqu'ici avec les thérapies classiques du cancer, notamment chimiothérapie. Et ça allait moyen, me dit-il. Et puis, depuis quelque temps, on pratique l'immunothérapie. En 3 mois, mes tumeurs ont régressé de 30%. Je suis debout. Je dirige à nouveau mon entreprise. Alors, qu'en dites-vous, professeur Solari, madame Mathéus, et vous aussi, monsieur Guermont, histoire quand même édifiante et formidable.
Oui, je pense.
C'est monsieur Solari qui nous parle.
Elle est d'autant plus que, pour avoir échangé aussi quelques mots avec ce patient, c'est une tumeur particulière. Toutes les tumeurs de ce type ne répondent pas au traitement. Oui. Et lui est dans un groupe particulier qui répond bien au traitement. Et ça pose la question de savoir si on peut prédire ça ou pas. Parce qu'on parle aussi de thérapeutiques qui vont coûter extrêmement cher, qu'il va falloir développer, qu'il faudra donner aux patients qui pourront en bénéficier et pas à ceux qui pourraient avoir des effets secondaires sans aucun bénéfice. Donc il y a toute une série de questions qui se posent en recherche autour de ça. Et donc on voit déjà avec ces immunothérapies qui viennent d'apparaître qu'il y a des groupes particuliers de tumeurs qui vont répondre. Et quelque chose d'un peu moral peut-être, c'est que d'un côté, il y a les thérapeutiques ciblées marchent plutôt dans les tumeurs qui ont très peu de mutations et l'immunothérapie marche très bien dans les tumeurs qui sont extrêmement mutées. Et donc les formes qui ont beaucoup de mutations qui paraissaient les plus graves et un peu inaccessibles aux thérapeutiques ciblées qui étaient en développement ces dernières années, finalement répondent très bien à l'immunothérapie. On parle du mélanome malin, mais on parle aussi du cancer du poumon, du cancer de la vessie et d'autres tumeurs, et de certains cancers du côlon par exemple.
Mais ce qui m'a frappé aussi, docteur Mathéus, c'est que c'est la pudeur. On lui a proposé évidemment de prendre un micro et de nous raconter. Non, il est très distant par rapport à ça. Ce qu'il nous a dit qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il est infiniment moins fatigué. Et la preuve, il me dit, par exemple, on m'a fait ce traitement avant-hier, je suis là aujourd'hui et je dirige à nouveau mon entreprise. Et je suis debout, me disait-il.
Vous parliez des effets secondaires des immunothérapies tout à l'heure. Alors, la fatigue, c'est un des effets secondaires, effectivement, de l'immunothérapie. Mais elle est infiniment moins importante que celle que provoque le cancer. Souvent, les patients ont peur des effets secondaires, viennent nous demander, mais est-ce que je n'aurais pas trop d'effets secondaires ? Les médecins, généralement, ont moins peur des traitements qu'ils ne l'ont de la maladie elle-même. Parce que les effets secondaires sont là, certes, mais on apprend à les gérer. Ils sont globalement assez gérables, la fatigue entre autres. Par contre, la maladie, elle est vraiment... ça doit être notre ennemi numéro un.
Oui. Et moi, j'ai dit... Alors, Aurore vient de me faire passer un petit mot, mais c'est vous dire à quel point elle est attentive à tout, Aurore. J'ai dit premier centre anticancéreux. Et vous m'avez passé...
j'ai un peu peur de cet anticancéreux.
Vous m'engueulez, Aurore, en disant on ne dit pas ça.
Anticancéreux, ça veut dire contre les cancéreux, non ? J'ai un doute, mais non, ce n'est pas tout à fait ça.
Non,
peut-être de lutte,
c'est pas mon état d'esprit.
Contre le cancer.
Contre le cancer.
Voilà, un centre de lutte contre le cancer.
Je dis ça avec un sourire un peu comme vous, monsieur Guermont, qui dirigeait cet institut. Parce que le témoignage de ce malade, qui ne se présente pas comme un malade d'ailleurs, c'est ça qui est formidable. Il est arrivé devant nous, debout, disant voilà, je suis patron d'entreprise et maintenant je dirige à nouveau. Tout ça, c'est la tête et donc la bonne humeur et la façon de positiver, c'est aussi un formidable outil thérapeutique.
Non, bien sûr. Je crois que ce qui change vraiment, on est dans cette période où on va d'une étape à l'autre qui va transformer pas mal de cancers. Et je parle des cancers métastatiques, là, maintenant.
Ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent...
Ça veut dire qu'ils ont des métastases, etc., qui sont dans un stade très, très avancé, avec, normalement, un prognose de survie très, très restreint. Mais dans ces catégories-là, maintenant, on est vraiment... on va d'une étape à l'autre. C'est-à-dire, dans le passé, comme j'ai donné comme exemple la situation en mélanome, il n'y a que 5 ans que pour ces patients, il y avait un pronostic de 6 à 8 mois, pas plus que ça, moyennement. Et tandis que là maintenant, on va voir une survie supérieure à 5 ans pour ces patients. Est-ce que ça va être aussi spectaculaire pour les autres tumeurs ? Pas forcément aussi spectaculaire, mais on voit en cancer poumon, par exemple, que le moyen pour les cancers poumons métastatiques était 12 mois. Maintenant, avec les mêmes molécules, les mêmes anticorps, ça a doublé. Ça n'a pas disduplés ou déciduplés, je ne sais pas dire en fait en mélanome, mais ça a quand même doublé aussi en cancer poumon, ce qui fait que ça peut aussi doublé ou triplé, etc., dans plusieurs autres cancers. Ça, c'est l'impact transversal de l'immunothérapie. Alors là, maintenant, on touche directement à plusieurs tumeurs parce que quel est l'élément qui est transversal là-dedans ? C'est qu'ils ont tous une relation avec le système immunitaire. On a découvert quelques acteurs principaux qui annulent la neutralisation. Il y aura des spécificités dans les types différents de cancers, mais le principe restera le même. Le principe restera le même, ce qui fait que ça va déclencher ce genre de transformation d'une situation où la vie se termine très très rapidement, franchement, vers une chronicisation de la vie. On va maintenant penser en années, pas en mois. On va penser en amélioration de survie en années, etc. Ça, c'est un changement très, très, très profond. Et ça veut dire que si on a des molécules qui ne sont pas liées avec beaucoup de toxicité, ce qui est en fait pour ce molécule anti-PD-1, c'est miraculeux, le bénéfice d'effet contre la manque de toxicité, disons. Ça s'appelle l'index thérapeutique. Cet index thérapeutique, on a rarement vu, en fait, dans l'histoire des traitements médicamenteux en cancérologie. Ce qui fait que quand ça devient une maladie plutôt chronique, en années, etc., c'est un élément très, très important, c'est un caractéristique très, très important de ce genre de médicaments.
Il y a eu beaucoup de messages en cours d'émission, docteur Christine Mathéus, dont un qui s'adresse pas directement à vous, mais quand même en tant que dermatologue. Le nombre de messages qui nous disent « mais oui, on est prêt à aller voir des dermatos ». Mais avoir un rendez-vous chez un dermato, c'est une aventure humaine. Si on téléphone aujourd'hui, avec un peu de chance, on sera reçu en novembre. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous n'êtes pas assez nombreux, nombreuses ?
On paye un peu le numerosus clausus des facultés. On a effectivement un nombre restreint et il y a une inégalité aussi de répartition en France, dans le territoire français. Il y a beaucoup plus de dermatologues dans le sud qu'il n'y en a effectivement dans le nord ou dans la Creuse.
Ça, on peut comprendre. Peut-être le soleil doit expliquer ça, peut-être.
Les qualités de vie peut-être aussi et les choix des dermatologues d'aller dans le sud. C'est sûr qu'effectivement, il y a un vrai problème. Nous-mêmes, à l'hôpital, on essaye de ne jamais refuser un patient, mais c'est compliqué parce que les journées ne font que 24 heures et qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de patients vus par jour. Mais le dépistage, il n'y a pas besoin d'un examen urgent. Donc on peut aussi prévoir d'aller voir le dermatologue. Souvent, je demande à mes patients de garder une date un peu anniversaire pour bien s'en souvenir. Alors ça peut être Noël, ça peut être l'anniversaire du petit, Pâques, peu importe. Mais on garde une date anniversaire.
Et on presque décaler un rendez-vous pour l'année suivante.
Exactement, pour l'année suivante, tout à fait.
C'est pas idiot, ça, comme façon de procéder, en effet. Autre chose très, très importante parmi les nombreux mails que nous avons reçus pendant l'émission, les outils technologiques dont vous disposez aujourd'hui, professeur Solari. On a parlé du big data, la capacité qu'ont des systèmes d'analyse de prise en compte du génome et donc d'avoir une idée très précise de l'origine du cancer. Y a ça, mais il y a aussi l'imagerie numérique. Tout ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite qu'avant, j'imagine.
Oui, on récupère des quantités d'informations effectivement colossales par rapport à ce dont on disposait auparavant.
D'ailleurs, et vous avez les outils pour les traiter, cette quantité, cette masse inouïe d'informations ?
On commence à les avoir et surtout on commence à apprendre à les gérer, ces outils, parce qu'il faut aussi, c'est un apprentissage nouveau. Il y a un métier qui est né, qui est la bioinformatique, qui est l'analyse des données biologiques avec des outils de l'informatique pour aller chercher dans des données considérables des informations. On est en train aussi de transformer les données d'imagerie, les images de scanner, etc., de les analyser au niveau du pixel avec des programmes informatiques qui donneront plus d'informations encore que ce que l'œil est capable d'appréhender lui-même. Donc toutes ces données représentent effectivement des quantités considérables de données qu'il faut apprendre à analyser et également apprendre à stocker et à conserver.
Mais alors, et aussi, mais ça je me tourne vers M. Eguermonde parce que je sais d'avance qu'il va me répondre positivement, Mais il y a l'enjeu ontologique, c'est-à-dire que la technologie, les machines, les algorithmes qui vont traiter des quantités d'informations extraordinaires, on n'est plus dans l'épaisseur humaine. Et la différence ici, et vous le dites chacun à sa façon, c'est la relation avec le patient. C'est ce qui se passe entre lui et vous, vous et lui. Et ça, c'est l'humain. C'est pas autre chose que l'humain.
Oui. Bon, ça, on ne peut pas nier. Je veux dire, ça, il faut toujours soutenir et il faut être très... il faut surveiller que tout ça se passe bien parce que à la fin, c'est ça l'expérience ouais. qui compte très, très profondément vis-à-vis comment est-ce que le patient se sent. On ne peut pas dire que c'est un point mineur. C'est quand même, ça reste toujours un point majeur. Mais les grands défis, moi je dirais que franchement, on maîtrise assez bien dans cette maison, cet aspect-là. Pour nous, les grands défis, c'est comment est-ce qu'on stratégiquement s'améliore dans quelques domaines pour être a world leader dans ce domaine.
Donc pour un leader mondial.
Un leader mondial, par exemple.
Non, mais je traduis pour
donner l'accès, accélérer à l'innovation aux patients en France. Et je crois que c'est ça ce qui nous distingue. Et c'est notre mission clé. Notre mission clé qui nous distingue de notre environnement, c'est d'avoir monté une organisation intégrée qui arrive à maintenir ou à arriver à cet objectif-là. Et dans ce contexte-là, ça ne sera pas seulement la France qui en profite, mais dans les réseaux oui. où nous fonctionnons, il y a bien sûr un objectif bien au-delà. Oui.
Ma chère Agathe, les questions de celles et ceux qui nous font l'amitié de partager ce 3D avec nous. Madame, je vous en prie.
Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on pourra dire un jour qu'il n'y aura plus de cancer? Ou bien est-ce que l'on dira plutôt que l'on vit avec son cancer?
Bon, je pense que, en tout cas,
professeur Solari,
dans des perspectives à moyen terme, on parle plutôt de vivre avec, clairement. On parle de maladies chroniques, de maladies aiguës devenues chroniques. Et dans un grand nombre de cas, pour l'instant, c'est ce qu'on sait faire de mieux, je dirais.
Mais c'est déjà le cas pour le VIH, par exemple, ouais, où voilà. vous avez de très nombreux malades qui vivent avec leur maladie. Voilà.
Et les toutes premières maladies qui ont été cancéreuses, qui ont été traitées avec des thérapeutiques ciblées, pour l'instant, les gens vont bien, vivent bien, normalement, mais avec un médicament. La maladie est chronique. Il faut simplement, on est un peu dépendant du médicament, dans l'immense majorité des cas. Pour l'instant, je pense que c'est le mieux qu'on arrivera à faire. Maintenant, on peut espérer qu'au-delà de ça, on arrivera à la vraie guérison par la suite.
Monsieur ou madame, pardon, je ne vois pas. Madame, bienvenue à vous.
Bonjour. Vous avez parlé d'immunothérapie et de thérapie ciblée. Je voudrais savoir s'il y a d'autres grandes pistes prometteuses dans la recherche sur le cancer.
Monsieur Solari, oui, toujours.
Il y en a un certain nombre. Je pense qu'il y a d'autres familles de médicaments qui apparaissent. Bon, il ne faut pas oublier que la triade de départ, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, reste une triade de base très utilisée en cancérologie. Mais maintenant, on a donc les thérapeutiques ciblées et l'immunothérapie. Et puis derrière, d'autres familles de médicaments sont en développement, des médicaments qui ciblent les mécanismes qu'on appelle épigénétiques. Ce sont des médicaments un peu complexes, mais qui sont actuellement en développement, qui devraient être des prochaines pistes. Et puis probablement d'autres cibles potentielles qui peuvent apparaître avec le temps.
Aurore ?
Oui, je reviens sur cette histoire d'immunothérapie qu'on a évoquée plus longuement en première partie d'émission. Et vous avez employé ce verbe qui avait attiré mon attention et qui est très joli, qui est le verbe réveiller. Alors, ce mot réveiller, il signifie en français tirer du sommeil. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en latin, le verbe qui est à l'origine de veiller, donc veiller, c'est la vigilance aussi, c'est surveiller, on a toujours ce même mot. Mais le verbe qui est à l'origine en latin, c'est vigere. Et vigere, ce n'est pas seulement veiller, mais être bien vivant. Donc en fait, le réveil, c'est...
Vigueur presque... vient de là aussi ?
Oui, attendez. Non, vigueur, c'est sans doute la force plutôt. Wis, je pense. Mais je ne vous le jure pas, mais... Écoutez, je vais vérifier. Mais je reviens sur ce fameux vigueré qui dit être bien vivant. Vous me direz peut-être, hein, être bien vivant, vigoureux, ouais. Je sais pas, je vais voir. Vigueré, être bien vivant. Donc le réveil, c'est aussi une forme de résurrection aussi. Donc on va ressusciter l'immunité.
Exactement. Ah, oui.
Le professeur Egarmont est d'accord avec ça.
Bon, je vais chercher vigueur maintenant.
C'est le titre de mes diapos. C'est exactement ce que vous venez de dire. Alors là, maintenant, j'ai toute la reconnaissance qu'il me fallait.
Tenez, il y a un mot aussi pour vous qui doit vous plaire, professeur Egarmont. J'ai lu ça en préparant l'émission aussi. La désescalade thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire, désescalade thérapeutique, aujourd'hui?
Je pense que l'idée générale...
Il a passé le ballon, là, le professeur Egarmont.
Il me faut... Non, parce que je ne suis pas certain que j'ai compris le mot désescalade.
Alors, voilà.
L'intensité du
ça veut dire
du
probablement
en fait.
Moins de...
Oh, c'est ça ce que vous voulez dire. Ouais. Non, c'est... c'est pas gagné non plus, je veux dire... voilà, tu vas en parler. Mais, c'est-à-dire, on est dans une transformation d'une époque où les chimiothérapies géraient tout, mais c'est quand même d'une façon relativement pas ciblée. Il n'y a pas ce index thérapeutique qui est très très favorable entre l'efficacité et les toxicités. Et ils n'ajoutent souvent pas beaucoup l'un à l'autre, etc. Il fallait entrer dans ce système qui reconnaît beaucoup plus les cibles exactes qui font dérailler les cellules cancéreuses. Mais on ne peut pas non plus survendre cette idée-là, parce que quand même, ces voies de signalisation, par exemple, qui peuvent être bloquées, existent quand même dans multiples cellules dans le corps, ce qui fait qu'on n'échappe pas à des toxicités. Je trouve franchement que cette philosophie de peu de toxicité des traitements ciblés est un peu survendue, franchement. Ce qui fait que le public pense maintenant, il y aura 2-3 pilules et ça arrange tout, etc. C'est pas si simple que ça. Réagissent avec l'un l'autre. Il y a toutes sortes de toxicités inattendues, etc. Rien arrive gratuitement, disons. On paye de toute façon de l'un ou de l'autre côté. Avec les immunothérapies, il y a des monoclonaux qui évoquent quand même pas mal de toxicités très troublantes, c'est-à-dire les auto-immunités, etc., que l'on n'arrive pas forcément à gérer très bien. Et ce que l'on ne sait pas encore avec la modulation du fonctionnement du système immunitaire, c'est que qu'est-ce que ça donne dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans? Alors, on ne peut pas toujours déjà déclarer une victoire quand on ne sait pas tout. Et ce sont ces données-là que l'on doit surveiller et que l'on doit collecter.
Autre question, madame, bienvenue à vous.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous parliez du soutien nécessaire de la société civile. Mais concrètement, comment on peut aider un institut comme Gustave Roussy? Quels sont les besoins à financer et à quoi ça va servir?
La dernière question est bien sûr la très bonne, parce qu'on connaît déjà la réponse aux deux premières questions. Effectivement, là, Eric.
Vraiment, vous êtes un Néerlandais qui maîtrise parfaitement la langue française.
Eric, cela arrive à en parler sans doute, mais j'aimerais dire un mot. D'abord, j'ai déjà évoqué que c'est la recherche, la recherche, la recherche. Si on n'y croit pas, c'est la fin de nos. On n'arrive plus à avancer. Et ça m'inquiète beaucoup que on a vu parmi les jeunes dans plusieurs pays en Europe un déclin vis-à-vis les sciences et être intéressé vis-à-vis les sciences. On a plutôt propagé que gérer les gens qui travaillent, de devenir un manager est beaucoup plus important que de devenir ceux qui créent le contenu qui fait avancer la société. Bien sûr, tous les processus doivent être gérés. Mais il faut que les jeunes y croivent, qu'il faut que les jeunes soient exposés aux merveilles des sciences. Et il faut constater qu'enfin, les sciences de vie sont devenues des vraies sciences. c'était souvent un peu regardé avec un petit mépris des gens qui savent maîtriser toutes les conditions de recherche. Alors, les physiques fondamentales, les chimistes, les mathématiques, ce qui fait qu'ils bossent et ils font la recherche dans un milieu beaucoup plus géré et prédéfini. Les sciences de vie ont souffert du fait qu'elles étaient trop aléatoires, elles étaient trop... les questions étaient trop dures pour un système qui n'était pas encore suffisamment évalué. Grâce au progrès en high-tech, on a créé des instruments qui ont fait avancer les progrès dans les sciences de vie.
Qu'est-ce d'une que façon... c'est les sciences de vie, pardonnez-moi, mais je ne
c'est la biologie, c'est la cancérologie,
vivant.
C'est comment ça fonctionne, la vie, une cellule, comment ils se parlent, qu'est-ce que c'est un organe, pourquoi est-ce que nous existons en tant
qu'homme
ou animal, et comment ça interagit avec l'environnement. Ce sont, grosso modo, les sciences de vie. Ça veut dire que quand on construit une nouvelle microscope qui va au-delà, qui va jusqu'à l'origine de la vie, on va décortiquer toutes ces procédures, on va enfin comprendre. Et là, maintenant, grâce par exemple à la biologie moléculaire, on ne peut pas comparer ce que l'on sait maintenant avec il y a 10 ans. On ne peut pas comparer ce que l'on fait maintenant avec il y a 15 ans. Alors, en une seule année, on a fait plus de progrès que dans les 50 années avant. C'est comme ça, c'est l'explosion, ça explose parce que c'est exponentiel, parce que les outils qui nous permettent de pénétrer les systèmes de vie sont tels que la densité des découvertes est hallucinante. C'est dur pour le public à comprendre. Mais c'est à la recherche qu'il faut mettre ses dons. Le mécénat, c'est pour propulser la recherche. Mais dans ce contexte-là, on veut que la recherche apporte le plus rapidement possible l'accès à l'innovation pour les patients. Alors, et ça veut dire qu'il y a un prérequis, qu'il faut que les champs de recherche soient intégrés pour arriver à cet objectif. Eric.
Est-ce que je peux ajouter?
C'est assez complet, hein, mais il y a sûrement des choses à dire encore.
Non, je crois qu'il faut effectivement essayer de balayer ce pessimisme autour des métiers de la recherche qu'on connaît actuellement. Ce sont des métiers, certes, ce ne sont pas des métiers d'argent, ce sont des métiers de passion. Et vous voyez qu'ici, c'est un site de passion. Oui. Donc, il y a énormément de perspectives passionnantes devant nous. Ouais, voilà, je crois qu'il faut souligner ça.
Mais encore une fois, le simple fait d'être physiquement présent ici, là, on le sent, on le perçoit, on le ressent. Autre question. Mademoiselle, bienvenue à vous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
C'était pour savoir comment faut faire pour éviter le cancer de la peau.
Alors, c'est le docteur Christine Mathéus qui va vous répondre.
Alors, tu es toute blondinette, avec une peau toute blanche. Donc, toi, le conseil, ce serait vraiment de faire très attention. De te couvrir comme tu l'es aujourd'hui, tu es bien couverte. Et puis de ne pas aller au soleil, effectivement, entre midi et 4 heures. Te mettre de la crème sur toutes les parties qui ne seraient pas découvertes, parce que tu auras sûrement envie de mettre des petites jupettes et tout ça l'été. Et donc de mettre bien de la crème quand tu n'es pas couverte.
Ça va être difficile, hein, on a envie de se mettre au soleil. Hein. Elle est ravissante, jolie comme tout, elle a un beau sourire. Mais oui, c'est pas rigolo d'aller se mettre à l'ombre quelquefois. Et pourtant, c'est vraiment important. Madame, bienvenue à vous.
Oui, bonjour. J'ai entendu dire qu'il faut faire confiance à la science. Et si on fait confiance à la science, est-ce qu'il y aura encore, qu'il resterait encore une part de mystère en être humain? J'aimerais savoir.
Aha. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, docteur Mathéus.
C'est difficile. On est tous cartésiens, je pense que les médecins, on est tous cartésiens, on est un peu comme saint Thomas, on ne croit que ce que l'on voit. Mais il y a beaucoup de choses que l'on voit qui malheureusement ne sont pas expliquées par la science aussi parfois. Donc oui, il y a une part de mystère. Et heureusement, quelque part, qu'il y ait une part de mystère.
Je vous observe en train de parler, il y a une façon de regarder aussi. Et cette façon de regarder, non, mais je précise... c'est l'acceptation de tout ce qui peut arriver, une forme de disponibilité qui est assez émouvante en réalité.
J'ai appris ce mot il y a très peu de temps en fait, l'empathie. C'est un psychologue qui me l'a appris, et parce que en fait c'est ce qu'on fait au quotidien, mais je ne savais pas mettre un mot dessus. Et il m'a fait effectivement une petite leçon de syntaxe en me disant le danger, c'est que vous passiez à la sympathie. C'est-à-dire que l'on soit dans la souffrance du patient et qu'on ne soit plus capable de se détacher de cette souffrance, du coup. Mmh. Et l'empathie, c'est effectivement de vous comprendre, de comprendre les patients, de comprendre leur souffrance, mais par contre d'avoir un certain recul pour pouvoir vous aider. Et voilà. Alors du coup, c'est...
Empathie, patient, même origine, passion, même exactement. Origine également.
On aurait envie de prolonger tout ça avec vous, sauf qu'on on arrive au bout de l'émission. Je voulais quand même dire, aujourd'hui 3D est ici avec vous à l'Institut Gustave Roussy, mais demain lundi, entre 9h et 13h, c'est Caroline Robert qui est la chef du service de dermatologie qui travaille avec vous, Madame Mathéoussin, qui sera là entre 9h et 13h sur... toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le mélanome, et qui va donner plein d'explications. Mardi, 9h-15h, même chose avec Caroline Robert, une conférence sur comment surveiller sa peau. Bref, toute cette pédagogie à laquelle on assiste à peine rentrée à l'Institut Gustave Roussy va se prolonger mercredi, conférence sur l'immunothérapie et le mélanome, avec vous, Christine Mathéus, et une dégustation, même l'après-midi, si vous êtes à Gustave Roussy, entre 15h et 17h, de délicieux... Alors, pardon, un smoothies, je ne sais pas ce que c'est qu'un smoothies, mais ça ne doit pas être mauvais.
Smoothie, c'est quelque chose de doux, ce sont des fruits pressés, écrasés.
Bon. Voilà. Voilà, on va conclure, mais avant de conclure, je voulais vraiment d'abord remercier Camille Blanès, qui pendant des années m'a aidé à préparer 3D. Aujourd'hui, c'est Agathe Mer qui est avec nous et qui l'a été souvent. La réalisation aujourd'hui, c'est Hélène Bizio, et ça a été si souvent Catherine Rosier, à qui je dis merci. Chargé de production, c'est Rémi Gouriot. On en a fait un paquet Rémi Gouriot d'émissions ensemble. Et puis à la technique, Éric Damaggio, Gilles Gallinero, Stéphane Poitvin, merci à vous tous. On ne pourrait rien faire sans vous et vous le faites avec un immense talent. C'est le dernier 3D, pas simplement celui de la saison. C'est le dernier 3D, mais la radio, c'est vivant. C'est comme l'Institut Gustave Roussy. Ça se recompose, ça essaie d'inventer d'autres choses. Peut-être qu'on essaiera d'inventer d'autres choses. Qui sait, l'avenir n'est écrit nulle part, comme dirait l'autre. Dans un instant, c'est Paula Jacques qui va prendre la suite. Non pas cette fois-ci pour Cosmopolitaine, mais pour Exil, une émission qui a été enregistrée au Théâtre de l'Odéon, autour du poète Ovide, avec Marie Dariussec, qui a traduit Triste Pontique, lettre qu'Ovide, alors en exil, avait adressée à son épouse et à ses amis. Et les textes vont être lus par Evelyne Didi. Merci à vous d'écouter France Inter, grande radio de service public, comme ici à l'Institut Gustave Roussy, le public d'abord.